Bienvenue dans Des Palabres et des Actes, le podcast qui prône le développement personnel au sein de la communauté afro-caribéenne. Alors, je suis ravie de recevoir aujourd'hui deux femmes très inspirantes qui vont nous parler intelligence financière. Donc, pour cet épisode 6, le thème est « Comment développer son intelligence financière ?» Donc, je reçois les fondatrices de Femmes Riches, Maëlissa Seymour et Vanessa Caraes. Bonjour, mesdames.
Bonjour, mam. Et merci de nous recevoir.
Bienvenue.
Hello, mam.
Hello, Vanessa. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours et pourquoi Femmes Riches. Je vous laisse vous présenter. Qui commence ?
Alors, du coup, je vais me lancer. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Maëlissa. Pour me présenter rapidement, je suis ingénieure informatique. J'ai toujours travaillé en banque, mais en back office. Puis après, je suis passée à mon compte. J'ai monté ma start-up dans le milieu de la deep tech, donc tout ce qui est intelligence artificielle. Et aujourd'hui, après avoir fermé cette première entreprise, je suis à mon compte en tant que freelance dans le domaine toujours de la data, du big data, etc. Mais en parallèle, j'ai lancé Femmes Riches avec Vanessa il y a maintenant 4 mois de ça.
Ah bah c'est tout récent en fait.
Femmes Riches, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent.
Et toi, Vanessa ?
Moi, je m'appelle Vanessa Caraes. Du coup, je suis aussi consultante en informatique. Moi, j'ai un parcours un petit peu différent, moins linéaire que celui de Maëlissa. J'ai d'abord fait une école de commerce avec une option en finance. J'ai travaillé pendant 7 ans en banque en tant que conseiller financier, donc vraiment en front office avec les clients. Je montais des crédits immobiliers, je proposais des assurances, de la prévoyance aussi. Et puis, au bout de 7 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du métier. Et j'ai repris mes études, j'ai passé un BTS, j'ai repris un master en génie logiciel et je suis devenue également ingénieure en informatique. Et j'ai travaillé plus dans ce cas-là en back office, toujours pour des banques, en tant que consultante classique pendant un certain nombre d'années. Et après, je suis passée consultante indépendante.
Toutes les deux, vous avez des parcours assez impressionnants. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous entreprenez ensemble ? Qu'est-ce qui vous a réuni autour de l'intelligence financière ?
Alors, je pense déjà que ça a commencé par des convictions personnelles. Donc, juste pour vous dire, donc moi, quand j'ai commencé à bosser dans la banque, je me suis rendu compte très vite, j'avais 21 ans à l'époque, je me suis rendu compte très vite que je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. C'est-à-dire que bosser pour un grand groupe en tant que salarié toute ma vie, au bout de 3 mois de stage de fin d'études, je me suis dit non, c'est no way, quoi. Mon caractère ne va pas avec ça. Et donc, très tôt, donc j'avais 21 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était indépendance financière, liberté financière, et à creuser différentes méthodes justement pour aller vers cette liberté financière. Donc, c'est des choses que je travaillais entre guillemets en sourdine de mon côté, donc pour mon propre compte. Et il se trouve qu'il y a à peu près un an de ça, Vanessa et moi fait partie de même groupe de femmes entrepreneurs. Et Vanessa a participé à un live sur Instagram sur le sujet justement des différents moyens d'épargne et d'investissement pour les particuliers. Je trouve ça très intéressant. Donc à l'époque, on était toutes les deux à Paris. Donc j'ai dit, hey, ça te dit un café? Et de café en café, j'ai réussi à la séduire, je crois.
Et ça a matché en fait.
Je crois que j'ai réussi.
Donc Vanessa, tu vois les choses comme ça, t'as séduite au fur et à mesure.
Pas du tout. Non mais c'est dingue parce que j'aime trop en fait entendre Maëlissa parce qu'on n'avait pas forcément eu ce genre de discussion. Oui, j'ai été séduite par Maëlissa évidemment, mais moi c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses et ça rejoint vraiment nos différences. On est quand même très différentes.
Mais il y a déjà deux points de vue en même temps.
C'est vrai. Non mais non, c'est juste vraiment on fonctionne différemment. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, Maëlissa, tu vois tout de suite que voilà, à 22 ans, elle savait qu'elle allait pas travailler pour un grand groupe et qu'elle allait être indépendante et entrepreneur. Mais alors moi, pas du tout. J'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire, j'avais le même âge, j'ai commencé par de l'alternance en banque et moi, je me voyais mais faire toute ma carrière dans un grand groupe, prendre mes 9 semaines de congés payés, me marier, faire des bébés et rien d'autre. Enfin, je n'aspirais à absolument rien d'autre.
Mais je te rassure, Vanessa, je pense qu'on est un peu toutes comme ça. Hein. On est plus ce profil-là que celui de Maëlissa en général.
Non, mais c'est marrant quand même. Et du coup, non, j'étais vraiment pas du tout comme ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que autant j'avais des aspirations classiques pour travailler dans un grand groupe, autant ma nature profonde est d'être entrepreneur. Donc très vite dans mon bureau, moi je m'ennuyais, donc j'avais créé un blog, j'avais créé une chaîne YouTube. Je passais mon temps en fait à créer plein de trucs qui en fait sont des actions d'entrepreneur, mais que moi je ne considérais pas comme des actions d'entrepreneur. Donc du coup j'ai créé une première société en tant qu'auto-entrepreneur. Normalement ça aurait dû me mettre à la puce à l'oreille, mais bon bref, j'ai créé une première société en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai créé donc un site web, j'ai commencé à créer plein de trucs, mais plutôt dans le business de la beauté. Et c'est là qu'en fait, j'ai finalement tout abandonné et décidé de reprendre mes études pour pouvoir être dans l'informatique et pouvoir avoir de l'innovation. Et donc, en fait, en changeant de secteur et en finalement regroupant mes deux passions, je me suis rendu compte que l'IT, c'était vraiment une passion. La finance, ce n'était pas juste une aspiration professionnelle. J'étais vraiment imprégnée par cet amour de la finance. Et j'avais déjà entrepris beaucoup de choses toute seule. Et je rêvais de tomber on parle des fois de matching amoureux, ben moi je cherchais mon matching entrepreneurial. Donc du coup je faisais beaucoup d'activités, je faisais des lives, je faisais des meet-up, je faisais vraïment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'un jour Maïlisa m'a contactée et m'a proposé de travailler sur l'éducation financière. Et c'est comme, tu sais, genre il y a un halo qui s'est allumé quand Maïlisa m'a parlé. Je me suis dit, ben c'est peut-être elle, c'est peut-être cette personne que j'attends pour créer mon projet, parce que je voulais plus entreprendre toute seule. Ça, par contre, j'avais pas plus envie, parce que j'avais l'impression que entreprendre toute seule, c'était faire ce que je faisais depuis des années, être toujours d'accord avec moi-même, me dire que ce que je fais, c'est extraordinaire. Et en fait, j'avais besoin d'avoir un contre-pouvoir, quelqu'un avec qui je vais confronter mes idées et quelqu'un avec qui je vais pouvoir grandir. Donc vraiment là-dessus, je nous ai trouvés très complémentaires. Et non, j'ai même pas eu l'impression qu'elle essayait de me convaincre, parce que j'étais déjà séduite en fait. Mais si j'avais su ça, je pense que j'aurais fait ma belle.
Non, mais en soi, tu aurais vraiment pu jouer les difficiles, parce que je me rappelle la première fois que je t'ai envoyé un message, j'étais en mode j'espère qu'elle va me répondre, j'espère qu'elle va me répondre, j'espère que cette idée va l'intéresser et tout. Non, c'est vraiment comme un date. T'es en mode est-ce que je vais plaire à l'autre? Est-ce que j'ai les bons atouts? C'était exactement la même situation.
Mais en même temps, ce que tu dis, c'est très marrant, parce que finalement, quand tu rencontres quelqu'un, c'est un peu comme quand tu cherches du travail, parce qu'il y a toujours cette période de séduction, ensuite cette période d'essai, en fait, entre guillemets. Donc oui, entre vous deux, c'est comme une histoire d'amour, en fait. Bon, faut préciser que vous n'êtes pas du tout ensemble, qu'on parle vraiment d'une relation professionnelle. Mais c'est vrai que c'est tout comme...
Mais moi, franchement, très honnêtement, je t'assure que je ne l'avais pas senti comme ça. Mais après, c'est ma nature. C'est-à-dire que je ne sais pas forcément pourquoi les gens vont me contacter, mais je vais toujours dire oui, je vais toujours prendre un café et je vais toujours discuter avec la personne. Et en fait, quand elle m'a proposé de travailler avec elle, c'est pas le premier partenariat que je fais, hein. Comme d'habitude, je dis toujours oui et je me dis toujours on verra où ça nous mènera. Sauf que là, je suis tombée sur quelqu'un qui a une vision, une stratégie, des étapes. Ce qui me changeait complètement et finalement, ce qui me convenait aussi, parce que moi, je suis quelqu'un dans l'action. Mais tu vas m'interroger sur ma vision. Bon, j'ai une vision à peu près floue, plus ou moins précise. Des fois, ça dépend de l'heure à laquelle tu te demandes. Tu vois, mais je suis pas aussi carrée. Moi, en général, je fais les trucs comme je le sens et on est très complémentaires là-dessus.
Alors, Vanessa, c'est marrant parce que je me retrouve totalement en toi. je comprends tout à fait ce que tu vivais, et c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui est complètement différent, c'est pour ça que c'est important d'avoir justement un pendant qui soit complémentaire et qui soit complètement différent de nous, pour pouvoir nous aider à gommer nos défauts, ou en tout cas à ne pas les montrer dans le business. Donc c'est très bien, franchement votre relation est très belle à voir.
Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, si on s'est mis ensemble, c'est parce que finalement, on s'est rencontrés au bon moment. Parce que, comme tu le disais, Vanessa, on était toutes les deux convaincues qu'on ne voulait plus travailler seules. Moi, j'avais déjà monté ma start-up avant, que j'étais en train de fermer. Et j'avais vu la puissance, justement, d'être à deux. Parce qu'entreprendre seule, je l'avais fait avant. Et c'est une vraie galère. Effectivement, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te contrebalance, qui est fort là où toi, tu es faible, où tu as des doutes, où tu as peur. Et ça, finalement, on a réussi, on travaille en tout cas à avoir cet équilibre. Donc, et en plus, on était toutes les deux convaincues qu'il fallait diffuser de l'éducation financière, parce qu'il y avait vraiment...
Justement, on en vient. Qu'est-ce que l'intelligence financière, selon vous?
Selon moi, l'intelligence financière, c'est savoir gagner de l'argent, mais pas que. Savoir comment le gagner, le garder, l'épargner, l'investir. Parce que souvent, là, enfin, en ce moment, et surtout après la période de confinement, on a été littéralement assaillis de méthodes pour gagner de l'argent rapidement. Donc, on se rend bien compte qu'il y a plein de méthodes pour gagner de l'argent rapidement. Par contre, on n'est pas du tout éduqué sur, mais une fois que j'ai cet argent, comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que j'investis en moi? comment est-ce que je m'assure de créer un patrimoine, matrimoine que je peux transmettre à mes enfants pour enrichir les générations futures? Comment est-ce que je peux investir également? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? À qui je peux faire confiance? C'est quoi un projet rentable? Il y a plein d'informations qui nous permettent de travailler avec cet argent qu'on a gagné, qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas parce qu'on ne nous l'a jamais appris, parce que oui, il y a des informations sur Internet, mais qui sont totalement éparpillées, et peu de gens ont le temps de parcourir 20 sites
Bien
pour
sûr.
avoir une information exhaustive.
Tout à
Et
fait.
donc, nous, pour nous, l'intelligence financière, c'est pouvoir, à un instant T, se dire, j'ai 1 000 euros, par exemple, comment est-ce que je les utilise pour subvenir à mes besoins, investir, protéger ma famille, etc.
Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'y consacrer? En tout cas, moi, ma mission, c'est que c'était en fait pas lié à quelque chose que j'avais vu de mes propres yeux. J'étais conseillère en front office, donc pendant 7 ans, tous les jours, j'ai vu des familles, des couples, des célibataires, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs défiler dans mon bureau. Et en fait, j'ai pu en fait regarder ceux qui géraient bien leur argent, voir comment en fait leur vie était transformée par cette connaissance-là, ceux qui géraient mal leur argent, voir comment leur vie était impactée et leur qualité de vie amoindrie en raison de ce manque de connaissances. Je me suis rendu compte que dans notre communauté, être riche, ce n'était pas forcément un objectif, ce n'était pas une ambition, ce n'était même pas en fait pour beaucoup de gens, enfin pour beaucoup de personnes dans notre communauté et pas que, ce n'était pas une question, c'est-à-dire que les gens ils vont trouver un travail, essayer de gérer avec leurs revenus ou le découvert, souvent les deux, et évoluer comme ça. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec des actions simples, avec des connaissances simples et des principes basiques, on pouvait complètement transformer sa vie en fait et pouvoir avoir accès à des choses auxquelles en fait mentalement on ne s'autorise pas même à rêver, tout
Tout à
simplement
fait.
parce qu'on se dit que c'est pas pour nous. Donc en fait, on a décidé de consacrer notre énergie à communiquer, à donner de l'information là où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. D'autant plus que quand tu parles d'éducation financière, il suffit de taper finance sur Google, tu ne vois pas des femmes noires. Tu ne vois pas des
C'est
femmes
vrai.
noires, tu ne vois pas des jeunes femmes noires,
Tout
tu
à
vois
fait.
des hommes blancs en cravate sur BFM Business ou des
Absolument.
gens qui vont te parler de trading. En fait, notre communauté n'a pas d'image, n'a pas de visage. Et on s'est dit qu'il fallait y remédier.
Dans la communauté, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre salaire, on l'utilise pour manger, payer son loyer, s'habiller, se coiffer, et c'est tout. C'est peut-être grossier ce que je dis là, mais finalement, c'est vrai. La plupart des gens, ils utilisent leur salaire pour manger, bah, pour les besoins basiques, on va dire, et les vraies dépenses vont dans l'habillement, la restauration et bah, tout ce qui est maquillage, etc. Et c'est vrai que on n'est pas éduqué pour. On n'est pas éduqué que pour moi de mon côté, c'est vrai que avant je m'y intéressais pas vraiment. Et moi, ce qui a été le déclic, c'est la lecture d'un livre Père riche, père pauvre, parce que c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'utilisais mal mon argent. Mon salaire, il me servait qu'à ce que je viens de dire là, donc à payer mes besoins de base. J'épargnais un petit peu, mais souvent je le récupérais, ou alors c'était pour mon plaisir personnel. Mais effectivement, en tant que salarié, je me disais pas que je pouvais économiser de l'argent et le réinvestir derrière, à part pour une maison, par exemple, ou à part pour une résidence principale. Et c'est vrai que c'est important ce que vous faites aujourd'hui, parce que je pense que vous allez permettre à notre génération et aux autres générations à venir de réfléchir autrement et d'avoir un autre rapport avec l'argent.
Et souvent,
Excusez-moi.
on peut penser que l'éducation financière, c'est un truc qu'on fera quand on aura le temps. Mais en fait, c'est pour une femme, en tout cas en France, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce qu'on sait que les femmes gagnent moins que les hommes, 20% en moyenne. On sait que les femmes vivent plus longtemps. On sait que les femmes sont plus impactées en cas de séparation. On sait que ce sont les femmes qui engagent le plus de dépenses pour leur famille, que ce soit pour les enfants, pour leur éducation, pour les sorties, etc. Donc, les femmes ont une charge financière compte tenu de leurs moyens supérieure à celle des hommes. Pourtant, l'histoire des femmes et de l'argent est toute récente. C'est-à-dire que les femmes ont eu le droit de commencer à investir il y a à peine 40 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture, en fait. On n'a pas cette culture de dire, oui, ben, ma mère m'a montré comment faire. Genre, ma mère m'a appris à me coiffer, par exemple. Ma mère m'a appris à faire à manger. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Mais dire que ma mère m'a appris à investir mon argent, non. Parce que quand
C'est
ma
vrai.
mère est née, les femmes n'avaient pas encore le droit
Ouais.
d'investir. Donc on n'a pas cette culture. On part de vraiment, vraiment loin. Et on part de loin, mais on a également beaucoup de choses à notre charge. Donc, on n'a pas ce luxe de se dire « je m'en occuperai plus tard, quand j'aurai le temps, peut-être », parce que forcément, on sera impacté par notre manque d'éducation financière, parce que potentiellement, il y aura une séparation, potentiellement, on aura des enfants à charge, potentiellement, si on est marié, notre mari va potentiellement décéder plus tôt que nous. Donc, on aura des finances dont on devra s'occuper. Il y aura des héritages à traiter, etc. Donc, c'est vraiment des problématiques qu'il faut prendre en compte le plus tôt possible, puisque l'éducation financière, l'intelligence financière et la gestion de son patrimoine, plus tôt on s'y intéresse et mieux ça va, toi, dans le futur, en fait.
D'accord. Et justement, vous, qu'est-ce que vous proposez pour aider notre communauté en général et tout le monde simplement à développer leur intelligence financière. Qu'est-ce que vous leur proposez avec Femmes Riches?
Alors, avec Femmes Riches, l'idée, c'est de se dire, déjà, on fournit du contenu accessible et compréhensible. Parce que Vanessa le disait, c'est qu'on pense finance, on pense aux gars sur BFM qui utilisent tout un tas de jargon, ou sur YouTube, où tu vas avoir plein de mots extrêmement compliqués. Donc, déjà, c'est déconstruire tout cet imaginaire qui veut que la finance soit extrêmement complexe, compliquée et difficile d'accès, notamment pour les femmes. Donc, on montre qu'en tant que femme, on peut parler finance, économie, investissement avec des mots simples et des concepts simples. Mais ça, ce n'est que le début, parce que nous, on a plein de rêves pour le futur, qui sont notamment tout ce qui va être des masterclass pour justement accompagner des femmes à investir, que ce soit en bourse, en crypto notamment. Et le Graal qu'on poursuit derrière, ça, tu pourras peut-être en parler plus en détail, c'est le fonds d'investissement, c'est être en mesure, en tant que femme, de se dire, on crée un pouvoir financier, on va se rassembler, on va rassembler nos euros pour pouvoir investir dans des projets auxquels on croit. Donc, ça veut dire qu'on peut financer un monde auquel on croit dans le futur, financer des projets et des personnes auxquelles on croit également, et également avoir une rentabilité derrière. Parce que c'est pas tout de donner son argent,
bien sûr.
Va vraiment avoir une rentabilité.
Tout à fait.
Et on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités auxquelles on ne pense pas forcément, auquel on n'a même pas accès, parce qu'en tant qu'individu, et nous en tant que futur fonds d'investissement, parce que c'est un de nos buts derrière, c'est de pouvoir le rendre accessible à une majorité de femmes.
Waouh.
Et moi, je vais compléter en disant que on fournit donc du contenu donc d'informations par le biais de notre page Instagram, par le biais de notre newsletter, par la création de notre podcast qui est en cours. Donc vraiment, et en plus après, on a envie de partir sur TikTok, moi principalement, parce qu'en fonction des supports, c'est pas la même clientèle. Moi, je souhaite vraiment beaucoup sensibiliser les jeunes, tout simplement parce que comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai pas eu d'éducation financière de la part de ma mère, j'ai fait vraiment n'importe quoi pendant vraiment trop longtemps et ça a été un réel choc de me retrouver. Je me souviens à l'époque, je venais de finir mon master en finance, je devais avoir 21 ou 22 ans et en fait on était 9 conseillers, on était dans une énorme agence, on était 9 conseillers au même poste, on était des conseillers privés et en fait quand je regardais mes collègues, j'étais la seule un peu à galérer financièrement. Je m'en sortais pas du tout. J'avais des petits crédits conso à gauche et à droite. J'étais à découvert. Et en fait, quand je voyais mes collègues, on mangeait ensemble. Donc là, je me disais, mais moi aussi, j'ai atteint ce niveau-là. Moi aussi, je suis cadre. Moi aussi, je suis en CDI. Moi aussi, je suis comme eux, mais j'étais pas comme eux. Parce que eux, en fait, ils avaient pu bénéficier de l'éducation financière de leurs parents. Eux, ils étaient pas là. En fait, tout avait été prédestiné pour qu'ils soient là. Moi, c'était presque un hasard. Et en fait, c'est en travaillant à leur contact que j'ai appris à gérer mon argent et comble du comble, en regardant mes clients gérer leur argent, que j'ai commencé à comparer par rapport à ce que moi je faisais. Je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est pas normal. J'ai pas envie que les prochaines générations soient comme moi. J'ai pas envie qu'en fait, ça puisse se répéter encore et encore et qu'on dise que les femmes, les jeunes femmes noires ou encore les jeunes femmes noires racisées, à part acheter des perruques, du rouge à lèvres et twerker, elles peuvent pas faire autre chose. Non, elles peuvent parler finances, elles peuvent gérer leur argent. Si jamais elles se marient, elles ont quelque chose à apporter sur la table en plus de leur beauté. Voilà.
Franchement, finalement, tu t'en sors bien parce que toi, tu as pu découvrir cette différence entre guillemets très tôt finalement dans ta vie. Parce que pour toi, tu débarquais à 20 ans, à 21 ans, 22 ans, mais c'est relativement tôt. Moi, j'ai découvert l'intelligence financière, on va dire, à 30 ans passés. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Il y en a qui, jusqu'à 40, 50 ans, n'ont jamais vraiment appris à gérer leur argent ou en tout cas à réinvestir. Donc finalement, tu peux t'estimer heureuse. Généralement, tout ce qu'on a fait auparavant, ça peut nous servir de leçon. Et toi, mine de rien, le fait d'avoir peut-être fait n'importe quoi, entre guillemets, ça t'a permis justement après de revenir sur les rails. Donc tu peux être fière finalement d'avoir fait n'importe quoi pour après te consacrer à mieux. Je vais passer à une question que vous m'aviez posée donc lors de l'enregistrement de votre propre podcast. C'était: quel est mon profil investisseur? Donc moi, je vous repose la question. Quel est votre profil investisseuse? On va demander d'abord à Vanessa, puis à Maëlissa, comment vous investissez, dans quoi vous investissez.
Donc, le profil investisseur, c'est une question que j'aime bien poser sur mon podcast parce que je l'ai directement récupéré de mon ancienne profession, donc quand j'étais conseillère. Il faut savoir que quand tu es conseiller, tu ne peux pas conseiller n'importe quel produit d'investissement, et encore, il faut faire attention au mot conseiller, à un client. Il faut connaître son profil investisseur, c'est-à-dire que tu as des clients qui ont une forte appétence au risque, donc ils peuvent partir sur des produits très risqués, sur une assurance vie. Par exemple, si tu vas sur une assurance vie, tu peux mettre 70% d'actions et seulement 30% de fonds euros, qui est un fonds donc avec des fonds sécurisés. Tu ne peux pas proposer ce profil-là à tout le monde. Si la personne a un profil appétant au risque, tu vas pouvoir le proposer. Si la personne il est très peureux face au risque, tu ne peux pas lui proposer quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut, avant de lui proposer un quelconque produit, connaître son profil investisseur. Et du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon expérience que, en connaissant le profil investisseur de la personne, ça te donne en fait une certaine idée de comment il réfléchit, de comment il vit. Parce que généralement, même, tu as des gens, ceux qui vont souvent être très très risqués en finance, c'est aussi des fois des gens qui vont prendre des risques aussi dans la vie en général. Et les gens qui vont faire très très attention avec leur argent, c'est souvent des gens qui vont pas forcément prendre trop de risques dans leur carrière professionnelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, je t'avais posé cette question et que je la pose à tous nos invités. Donc concernant mon profil investisseur, moi j'ai un profil avec une très très forte appétence au risque. Mais on retrouve ça sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on peut considérer que l'immobilier, c'est un plan, c'est comment dire, un secteur qui est plutôt stable. Tu prends pas forcément beaucoup de risques. Moi, j'ai investi sur des appartements, mais j'ai pris des risques. Par exemple, mon deuxième investissement, c'est un appartement sur lequel il fallait tout refaire. Je n'avais pas forcément toutes les infos. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, hein, mais ça correspond à ma personnalité. Je suis plutôt une fonceuse. Donc, du coup, j'ai un profil investisseur qui est déjà très axé sur l'immobilier et plutôt sur l'immobilier de construction, de travaux, de rénovation. Pas forcément acheter quelque chose qui est tout fait, tout carré, et qui va rouler et que je vais regarder que le cash flow. J'ai aussi pas mal d'attractions pour l'univers donc de la finance en général, donc les PEA. Je regarde souvent la comptabilité de l'entreprise, ce qu'elle a fait avant, les chiffres qu'elle a sortis sur les 5 dernières années, pour voir en fait si la valeur de l'action a bien évolué sur les 5 dernières années et si le secteur sur lequel elle est située est porteur. Donc, du coup, j'aime beaucoup les marchés financiers pour ça. Donc, j'ai un PEA. J'ai aussi très, très forte appétence pour l'univers des cryptos plus particulièrement sur les NFT. Donc, les NFT, c'est les œuvres d'art qui sont reliées à la blockchain. Donc, j'ai investi sur quelques cryptos. Il y a quelques années, j'avais investi sur l'Ethereum. J'ai revendu. J'ai jamais investi sur le Bitcoin parce que pour moi, j'avais loupé le coche. Mais finalement, est-ce que vraiment il y aura une limite au Bitcoin, je sais pas. J'ai juste l'impression que j'ai un peu loupé le coche du Bitcoin. Et puis quand je regarde aussi la manière dont sont validés les nouveaux blocs de Bitcoin, le Bitcoin est basé sur le proof of work, donc résolution d'algorithmique. Cette résolution d'algorithmique est très gourmande en énergie, avec toutes les problématiques liées à la planète, tout ça. C'est un peu moins aligné avec mes convictions. Donc, même s'il y a du rendement à se faire, ben, je ne vais pas forcément aller là-dessus. Donc, pour résumer, j'ai un profil investisseur très, très, très appétant au risque, et je sécurise en fait mon argent par mes revenus que j'essaye d'augmenter régulièrement par mes différentes activités professionnelles.
D'accord, bah c'est plutôt complet. Maïssa?
Alors moi, de mon côté, mon profil de risque a beaucoup évolué avec le temps. Donc quand j'ai commencé, j'étais quelqu'un d'extrêmement extrêmement prudent. Je mettais tout sur délivré, tu vois. Ma mère m'avait ouvert un GMO à l'époque à la Banque Postale et je continuais à l'alimenter. Et j'ai continué pendant des années parce que on ne sait jamais, tu vois. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, ils te fouillent une épargne et plus tu en as, mieux c'est. Ça a été moi pendant très longtemps jusqu'à ce que j'investisse dans l'immobilier. Donc pour moi, c'était déjà monter légèrement au niveau de risque. Et encore, c'est un risque modéré parce que j'ai quand même fait mes calculs avant. Oui, bon, l'immobilier, ça monte, ça ne va pas perdre de valeur, c'est sûr, etc. Et je suis restée sur l'immobilier jusqu'à mes 25 ans à peu
Oui.
près. Et là, j'ai augmenté encore en niveau de risque en rajoutant une assurance vie autre que les fonds euros. Parce que comme disait
D'accord.
Vanessa, les fonds euros, c'est capital garanti, mais qui dit capital garanti te dit aussi que bah, tu ne gagnes pas grand-chose. Et en
Ah,
l'occurrence, je
tout à
gagnais
fait.
rien du tout, en fait. Et donc là, j'ai commencé à rajouter des actions, mais sans vraiment savoir ce que je mettais dedans. Donc, du coup, j'ai quand même perdu de l'argent. Parce que je me dis, ah, mais tiens, t'es à moins 500 euros. C'est bizarre, ça, quand même. Ah, moins 1000 euros. C'est bizarre, ça, quand même. Tu vois? Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je regarde ce que je mets exactement dans mon assurance vie. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de comprendre le fonctionnement bah, des unités de compte, les ETF, etc. Et jusque-là, je trouvais que j'étais plutôt risquée, sauf que, en fait, comme Vanessa, tu l'as dit, en gros, je trouve qu'il y a une véritable corrélation entre la capacité à entreprendre et le profil de risque. Parce que mon profil de risque a fait un bond monumental quand justement je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et finalement j'ai tout lâché. Donc j'étais contente d'avoir eu mes économies, mon épargne de précaution à côté.
Oui.
Mais une fois que j'étais vraiment à l'aise dans l'entrepreneuriat, là j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos de manière sérieuse parce que bah, tu te dis, c'est comme ça que tu peux. Enfin, c'est un domaine de spéculation forcément, mais c'est un moyen de gagner de l'argent également. Donc du coup, je m'y suis mise. Donc si je résume aujourd'hui, donc j'ai du livret d'épargne classique pour l'épargne des précautions, de l'IMO, de l'assurance vie où j'ai à la fois des obligations, du fonds euro et pas mal d'actions aussi, et des cryptos. Donc là, j'arrive, profil investisseur assez risqué, mais pas trop. Ça va, ça reste raisonnable, je dirais. J'ai quand même une
Très
petite
bien.
aversion au risque.
On a une notion du raisonnable qui est très très particulière, hein. Tu
Oui, mais après, oui. Non,
remarqueras.
mais bon, je ne vais pas vous mentir, à un moment donné, je me suis un peu perdue dans ce que tu disais, Fanissa, quand tu es rentrée un peu dans la technique
Oh,
de.
pardon.
Et j'espère que ceux qui nous écoutent ne se sont pas perdus. Mais justement, c'est un peu le rôle de femme riche, c'est de démocratiser justement tous ces termes un peu trop techniques pour nous, personnes lambda. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ou à aller voir leur compte Instagram et leur newsletter pour justement vous habituer, parce que vous donnez beaucoup de définitions, justement. Moi, c'est sur vos comptes que j'ai pu comprendre enfin ce qu'était une NFT, parce que j'en entendais parler. J'ai essayé de comprendre, mais voilà. Donc c'est justement pour ça en fait que vous existez et comme quoi hein, vous avez vraiment du travail. Par rapport à tout ce que vous voyez, vous, bah, par rapport à votre background et ce que vous avez lancé récemment, est-ce que vous avez pu dresser des profils types d'investisseurs dans la communauté afro-caribéenne? Est-ce que on est plus appétant au risque ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent? Qui veut répondre à la question?
Moi, j'avais dit que j'allais répondre à cette question. Depuis qu'on a commencé, en fait, il y a différents profils qui se dégagent. Moi, je me rends compte, en tout cas, que déjà des informations de base, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas les informations de base. Un des billets qui avait le plus marché, c'était le billet sur la blockchain. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand en fait, tu travailles sur les cryptos, la blockchain, c'est juste la base. Après, il faut aller au-delà. Mais si déjà le billet qui marche le plus, c'est la blockchain, c'est de se rendre compte que, en fait, la base même n'est pas forcément maîtrisée, acquise et maîtrisée par l'ensemble des femmes qui nous suivent en fait. Après, nous, on va quand même sur des éléments assez techniques. Les besoins de notre communauté sont souvent un peu plus simples. Donc, des fois, on essaie de mixer entre informations très techniques et informations de base. Notamment sur mon podcast, là, je vais faire une série sur qu'est-ce qu'une carte bleue, comment se servir d'une carte bleue, qu'est-ce qu'un crédit à la consommation, quelle est la différence entre crédit
dédiée à la consommation classique ou découvert autorisé. Ou... Donc, vraiment, il y a des besoins dans tous les sens. Mais après, en termes de type d'investisseurs dans notre communauté, je pense que pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a un type précis. Il y a autant de types que d'individus. Donc, après, on peut voir les grandes tendances. Et comme c'est des femmes, en général, les femmes sont quand même plus prudentes que les hommes. Nous, on travaille à déconstruire, en fait, cette prudence qui résulte souvent de croyances limitantes.
D'accord. Oui, effectivement, il doit y avoir beaucoup de profils d'investisseurs, effectivement. Mais dans les grandes tendances, est-ce qu'on a plus tendance à investir dans l'immobilier, par exemple, ou on a plus tendance à… Est-ce que même on est présent dans la crypto? Parce que bon, la crypto-monnaie, bah, moi, j'ai commencé à investir là-dedans il y a un an seulement, mais vraiment par hasard, parce que j'ai été initiée par un ami. La communauté s'exprime vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus.
En fait, les femmes sont très curieuses par rapport à la crypto, ne serait-ce que pour comprendre de quoi il en retourne. Après, est-ce qu'elles font le pas pour investir? Pas assez, je trouve. C'est plus les hommes qui se lancent. Les femmes, là où elles vont souvent faire le plus de pas, d'après ce que j'ai vu, c'est plus dans l'immobilier. Ou alors, comme Maëlisa disait, vers les livrets. Mais elles ne vont pas forcément aller… au pire, elles vont aller sur des assurances-vie ou des PEA, mais il va falloir que quelqu'un leur dise quoi mettre dedans. Elles ne vont pas aller s'asseoir pour regarder le code ISIN d'une action à mettre sur un PEA.
Bah, typiquement, non, moi, je ne me suis pas creusé la tête, en fait. On m'a proposé une assurance-vie à ma banque. Je sais que je dépose tous les mois, mais après, je ne vais pas chercher ce qu'il y a dedans. Donc, bon, après, je ne sais pas si je suis un cas atypique ou pas, mais personnellement, je ne vais pas chercher plus loin parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. La seule chose que je me dis, c'est que j'épargne, en fait. Pour moi, ça reste de l'épargne. Et ça, nos conseillers bancaires, en tout cas, ne le font pas.
En tout cas,
bah, je pense
qu'il faut aller plus loin. Parce que, par exemple, sur l'assurance vie, déjà, quand tu mets de l'argent dessus, tu as des droits d'entrée. Il faut savoir comment sont calculés ces droits d'entrée. Il faut savoir que ces droits d'entrée sont négociables. Il faut savoir que tous les contrats d'assurance-vie ne proposent pas les mêmes droits d'entrée. Une fois que tes fonds sont sur l'assurance-vie, tu as des coûts de gestion. Il faut comprendre combien sont ces coûts de gestion, à quoi ils servent, qui les prend, le pourquoi du comment. En fait, vraiment, on essaie de travailler sur Femmes Riches pour dire que s'occuper de son argent et de que cet argent, comment c'est employé, c'est aussi important que de mettre sa crème hydratante le matin ou de démêler ses cheveux. Non, mais c'est vraiment l'exemple que j'utilise parce que t'as aucune noire qui va prendre une douche et qui va sortir comme ça sans mettre
ça,
sa crème
hydratante.
J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, j'exagère.
Oui,
non,
mais je comprends.
Mais vraiment, c'est de se dire que c'est vrai que ça prend du temps, mais tu les prends bien les 15 minutes pour mettre ta crème, donc tu peux bien prendre 30 minutes par semaine ou par quinzaine pour vraiment savoir où est-ce que tu en es dans tes comptes, où est-ce que tu en es dans tes placements, qui prend quoi, où les choses vont, le pourquoi du comment. Et si ça ne t'intéresse pas, paie quelqu'un pour le faire et fais des points réguliers. Et ton banquier n'est pas forcément fait pour ça. Ça
aussi, justement, j'allais dire, lancez vite vos masterclass. Bah, du coup, je suis obligée de regarder par rapport à ma situation personnelle. Moi, je demande des conseils. Mais honnêtement, comme c'est une partie qui ne m'intéresse pas forcément, je ne vais pas creuser plus loin. Enfin, mais je pense que, tu vois, tout ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'aurais pu négocier les droits d'entrée, etc. Et donc, c'est pour ça que Femmes Riches a toute sa place et vraiment était quelque chose dont on avait besoin parce que je pense que je ne suis pas la seule à découvrir ce genre de choses.
Excuse-moi, mais Vanessa, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Et en fait, Vanessa a donné l'exemple de la crème hydratante. Et moi, j'adore parce que c'est ça. C'est-à-dire que tu vas voir des femmes qui ne mettent pas du tout de crème hydratante. Tu vas en avoir qui savent qu'il faut en mettre, qui vont en mettre régulièrement. Et tu vas en avoir qui savent qu'il faut en mettre, mais qu'il faut en mettre une qui a les bons produits pour ta peau. Ben, c'est pareil avec les finances. Déjà, tu es au courant que tu dois t'occuper de ton argent, c'est bien. Tu choisis un produit, c'est bien. Mais savoir ce qu'il y a dedans et comment il fonctionne, là, c'est le top parce que tu auras quelque chose qui correspond vraiment à tes besoins. Et soyons clairs, c'est pas quelque chose que tu dois faire tous les matins. Savoir si tu vas sur des fonds euros ou sur des actions, quel type d'action, tu te poses la question une fois. Parce que tu en discutes avec ton gestionnaire de patrimoine, ton conseiller à la banque, avec Femmes Riches si tu veux aussi. Mais une fois que tu t'es posé la question, tu prends tes décisions et après tu peux tout automatiser. Tu n'es pas obligé de le gérer au quotidien. C'est ce qui est important. Entre savoir ce que tu fais et le faire toi-même, il y a une différence. Bien sûr. Tu peux déléguer, mais il faut déléguer en conscience, encore une fois.
Bah justement, j'allais vous demander si vous n'aviez pas des conseils pour les gens comme moi. Tu viens d'y répondre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens comme moi qui ne savent pas ou qui savent, comme tu dis, mais qui ne n'approfondissent pas, donc qui ont besoin de conseils, notamment pour démarrer. Donc, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes-là? Comment demain, par exemple, si moi, demain, j'ai envie de développer mon intelligence financière, de mieux gérer mon budget, de mieux investir, qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois commencer?
Pour moi, la toute première étape, c'est connais-toi. Quel est ton profil investisseur, pardon. Tu nous as posé la question, mais ça, chaque personne, chaque femme doit se la poser. Pourquoi est-ce que j'investis? Avec quelle est mon appétence au risque et où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'ai des enfants pour lesquels je veux épargner ou financer leur scolarité? Est-ce que j'ai des projets d'achat de maison? Est-ce que je veux préparer ma retraite, par exemple? Quel est l'objectif de mon épargne, de mon investissement, et quelle est mon appétence au risque? Ce sont les deux questions à se poser dès le départ. Et à partir de là, tu peux commencer à creuser par toi-même ou avec un conseiller quelconque pour te dire quels sont les produits qui rentrent ou qui sont alignés plutôt avec mon horizon de placement et mon niveau de risque acceptable.
D'accord.
À partir de là, après, tu peux y aller soit par toi-même, en disant, ben, je vais ouvrir un PEA, par exemple, et acheter mes actions, ou je délègue entièrement, je fais appel de la gestion pilotée pour une assurance vie, ou alors parce que j'adore le risque, pardon, j'irai en crypto, mais à la fois, je peux y aller en délégué ou en personnel. Voilà, une fois que tu sais qui tu es, ton appétence au risque, ce que tu fais avec ton argent, là, tu as l'impression que c'est un chemin qui s'ouvre à toi. Parce que c'est beaucoup
Tout
plus
à fait.
simple de savoir où tu veux aller. Et moi, s'il y a quelque chose que je dirais aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. On a toujours l'impression, et Vanessa le disait tout à l'heure, j'ai raté le coche. Non, en fait, non. Parce que mécaniquement, mathématiquement, le marché monte toujours. Tout le marché monte. Que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, que ce soit les cryptos, on n'a que des marchés en croissance. Peut-être que si on regarde sur une toute petite échelle de temps, on peut avoir des pics, mais globalement, le marché monte. Donc, il n'y a pas de moment raté. Il n'y a pas un coche qui a été manqué. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et si, par exemple, vous aviez jusqu'à présent tout sur un livret d'épargne quelconque, vous pouvez commencer aujourd'hui à l'investir en assurance vie, en crypto, en immo, etc. Et deuxième point important, c'est qu'on peut commencer à investir et à épargner à partir de 10 euros. Il ne s'agit pas de se dire que l'investissement, c'est une histoire de riche. Pas du tout. À partir de 10 euros, aujourd'hui, on peut commencer à investir en immobilier. Avec 10 euros, on peut investir en actions. Avec 10 euros, on peut investir en crypto. Avec 10 euros, on peut épargner pour son épargne de précaution. Il n'y a pas de restriction de montant pour l'épargne et
Alors,
l'investissement.
en crypto, excuse-moi, en crypto, en bourse, je veux bien, mais comment tu peux dire à quelqu'un qui peut investir avec 10 euros en immobilier? Pour le coup, je suis dans l'immobilier et je n'ai aucun produit à 10 euros. Donc, est-ce que tu peux juste expliquer à ceux qui nous écoutent ce que tu veux dire par là?
Parce qu'en fait, quand on pense à l'immobilier, on pense à la pierre. Mais tu as la pierre papier. Tu peux avoir des options. Tu vas acheter des ETF. Donc, ce sont des gros paniers d'actions de SCPI. C'est-à-dire que tu vas acheter des petits morceaux de sociétés civiles, de sociétés immobilières, pardon. Pas forcément civiles, des sociétés immobilières. Tu peux investir dans des structures comme, ben, je ne vais pas nommer de nom, mais qui vont te permettre de faire du crowdfunding ou du crowdlending immobilier
Absolument. Oui,
également.
tout
Et
à
là, les
fait.
tickets d'entrée sont extrêmement bas. Et si je dis 10 euros pour l'immobilier, c'est parce que justement, j'investis dans un projet il y a 3 mois de ça et le ticket d'entrée était de 10 euros. Donc, c'est possible. Donc, vous n'allez pas forcément avoir un immeuble en
Bien
sortie ou un
sûr.
terrain à 10 euros. Ce n'est pas ce que je dis, mais on peut commencer par là et avoir une rentabilité quand même.
Tout à fait. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça, c'est pour que les gens puissent comprendre.
Moi, du coup, je voulais vraiment intervenir parce que Maëlisa, elle est très orientée à investissement, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi connaître son profil financier de base. En fait, il faut savoir qu'avant même de pouvoir se dire que l'on va investir dans quoi que ce soit, faut connaître son profil. Tout le monde ne peut pas investir. Si, par exemple, tu es célibataire avec 3 enfants au SMIC et que tu vis en Île-de-France, ça peut être compliqué d'investir. Tu peux épargner, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je pense qu'il faut d'abord connaître sa situation, connaître ses revenus, connaître ses charges, connaître la nature de son foyer. Ensuite, pouvoir mettre en place une épargne de précaution pour pouvoir faire face aux aléas de la vie. Et à partir du moment où on a déjà une maîtrise de ce qui rentre, ce qui sort, le pourquoi, du comment, on établit un budget adapté. Et si on arrive à respecter ce budget et ses objectifs, là, on peut passer sur une stratégie d'investissement qui sera pertinente. Parce que je pense que beaucoup de tes auditrices l'ont connu. Je vais mettre 100 euros sur une assurance vie de première gamme. Premier problème, je vais fermer l'assurance vie, récupérer les 100 euros pour aller payer l'essence qui a augmenté. Parce que quoi? Juste parce qu'en fait, tu n'avais pas analysé ton style de vie, ton budget, tes revenus, tes dépenses, et tu ne t'étais pas rendu compte qu'en fait, on n'était pas au stade où tu peux ouvrir une assurance vie. Tu en es au stade où peut-être tu peux ouvrir un livret A, un livret de développement durable et solidaire, mais tu ne peux pas aller sur une assurance vie tout de suite parce qu'au stade où tu en es dans ta vie, ton évolution, tu n'es pas prêt. Donc, il y a vraiment, il y a le profil investisseur qui est important, mais il y a le profil financier, le profil de la personne même qui compte. Et c'est vraiment des choses à analyser en amont pour pouvoir, comme elle dit, Maëlisa, adapter sa stratégie. Ce n'est pas vraiment le montant qui compte, mais c'est la situation au global qu'il faut connaître.
Très intéressant. C'est vrai que je suis très focus sur l'investissement, mais Vanessa, tu as totalement raison. La première étape, oui. Ben oui, c'est ça. Mais la première étape, c'est l'épargne. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'investir si jamais tu as un problème demain matin, tu n'as aucune liquidité pour y faire face. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que,
bien sûr,
disons, je ne sais pas, ta machine à laver, ta voiture, ton téléphone, ce sont des objets qui vont se déprécier avec le temps. Donc forcément, tu as un amortissement. Tu sais que ta machine à laver, tous les 10 ans, il faut la changer. Ta voiture, en Guadeloupe, c'est tous les 5 ans, tu vois. Tellement il y a de la rouille, il y a des trous partout. Donc tout ça, tu le sais. Donc tu sais qu'il faut provisionner de l'argent pour ça. Et il faut déjà commencer par se dire de quelle épargne j'ai besoin pour des urgences, pour du provisionnement, pour un amortissement, avant de commencer à bloquer potentiellement de l'argent sur des investissements où le capital n'est pas garanti, où la liquidité n'est pas forte.
Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir enlever de l'argent qui devait être immobilisé pour pouvoir régler une dépense urgente. Premièrement, on perd les fonds parce qu'il y a déjà souvent des droits d'entrée sur ces trucs-là. Et en plus, finalement, on n'a ni épargné, ni investi. Et en plus, par rapport à l'image que l'on a de soi-même, tu vas entendre le discours du « oui, j'arrive pas à épargner, oui, j'arrive pas à ci, ça, ça ». Non, ce n'est pas que tu n'arrives pas à épargner, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas mis en place les bonnes stratégies pour pouvoir investir ou épargner.
Donc, si je résume bien pour celles et ceux qui nous écoutent, la première étape, c'est d'abord de bien se connaître, de mieux se connaître, connaître ses dépenses, son profil, ses dépenses, son budget, toutes les dépenses auxquelles, en fait, il faudrait pouvoir pallier. Donc, pouvoir épargner ensuite pour définir une stratégie avec laquelle tu vas investir à court, moyen ou long terme. Et moi, ce que je retiens de ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne faut investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, en fait. Ça, je pense que c'est quand même aussi le b.a.-ba, finalement, de ce qu'il faut.
Il y a une règle qui dit qu'en général, avant de te lancer dans l'investissement, tu devrais avoir sur de l'épargne 3 mois de salaire. Bien évidemment, ça dépend des personnes. Ça dépend si tu gagnes 10 000 euros, est-ce que tu as vraiment besoin de 30 000 euros sur tes livrets pour pouvoir investir? C'est pas sûr.
Mais quoi que,
ça dépend si tu as le niveau de vie ou le rythme de vie ou le lifestyle qui va avec les 10 000 euros par mois. Peut-être que oui, c'est pertinent d'avoir 30 000 euros sur un livret A avant de partir sur un achat immobilier ou autre. Mais voilà, la règle, c'est quand même essayer de respecter 3 mois de salaire sur tes livrets avant de commencer à envisager une stratégie d'investissement.
Et donc, pour en revenir aussi par rapport aux suggestions de Maëlissa, c'est qu'il y a plusieurs types d'investissements. Donc, ça peut être effectivement de la crypto, de la bourse, des placements financiers et surtout, donc moi c'est ce que je retiens parce que c'est ma partie, de l'immobilier. Donc investir dans l'immobilier, et il y a effectivement plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. Donc effectivement, il y a le crowdfunding immobilier, il y a l'investissement, investir dans le dur, investir dans les terrains, investir dans l'investissement locatif. Tout ça effectivement, c'est des moyens optimiser ses investissements.
Exactement, très bien résumé.
Donc, moi, ce que je retiens, c'est que on avait vraiment besoin de femmes riches. Personnellement, j'apprends beaucoup de vos contenus. Donc, j'invite vraiment tout le monde. Donc, sur Instagram, c'est bien femme.riche, c'est ça, femme.riche au pluriel. Vous avez une newsletter qui paraît tous les vendredis.
Exactement. Le rendez-vous de la semaine.
Le rendez-vous de la semaine qui sont très, très intéressantes. Faut pas penser que c'est du contenu qui est très technique. Alors, pas du tout. Elles essaient vraiment d'être très terre à terre, j'ai envie de dire, dans leur définition et dans leurs explications. Je pense que ça vaudrait le coup vraiment de lancer vos masterclass parce que vous avez le public pour, mais vraiment. Voilà, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des tips, quelque chose que vous voudriez partager avec la communauté? N'oubliez pas que là, on est dans le développement personnel et investir, pour moi, bien savoir, être intelligent financièrement, c'est du développement personnel. Parce que pour pouvoir être épanoui, faut pouvoir bien vivre et pour pouvoir bien vivre, on va pas jouer sur les mots, hein. L'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc, est-ce que vous avez des choses à partager avec la communauté
Alors pour
à
moi,
remultiplier?
le mot de la fin, ce serait de dire que l'éducation financière, c'est comme tout, ça s'apprend. Il faut arrêter de croire qu'on est avec un gène miraculeux qui fait qu'on serait doué pour la finance, qu'on serait doué pour l'épargne, pour l'investissement, pour gérer l'argent en général, absolument pas. C'est au même titre que quand vous étiez à l'école, vous avez appris le français, les maths, etc. C'est pareil pour l'éducation financière. Il y a des choses de base qu'il faut apprendre. Justement, on est là pour les rendre accessibles, pour les vulgariser. Et plus vous en saurez, plus vous pourrez monter en complexité. Donc, il faut aussi être conscient de ça et du coup être beaucoup plus indulgente par rapport à vous-même et ne pas se flageller en permanence qu'on se rend compte qu'il y a des gens plus doués que nous. C'est normal, il y aura toujours quelqu'un de plus doué que nous. Tout ce qui compte, c'est la progression que nous on a par rapport au niveau d'où on est parti, en fait.
Absolument. Et de toute façon, t'as raison. Je pense que dans la vie en général, faut jamais se comparer aux autres, en fait. Le plus important, c'est notre propre évolution et tout simple. C'est de voir d'où on part et où on veut aller, en fait. Vanessa?
Franchement, je rajouterais pas grand-chose hein, par rapport à ce qu'elle a dit. Je suis vraiment alignée. Moi, le seul conseil que je donnerais, ce serait commencer à faire son budget et à s'éduquer et à éduquer ses enfants si on en a le plus tôt possible. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que j'ai tellement vu en fait dans mon bureau défiler des familles et j'avais la famille A. Monsieur vient avec son tableau, son PC et son tableur Excel avec son fils de 6 ans et il lui explique tout, il lui ouvre un livret, machin. Et la famille B où madame vient et galère, son enfant pleure, on prend tout l'argent sur les. Tout l'argent, en fait, l'argent était sur le livret des enfants et on vide le livret de l'enfant pour payer les courses. En fait, ça me faisait tellement mal au cœur que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas juste s'éduquer pour soi, il faut aussi s'éduquer pour ses enfants parce que la génération future est déjà là en fait.
Alors justement, je vais rebondir là-dessus parce que pendant l'enregistrement de votre podcast, j'ai découvert qu'il y avait des astuces que j'utilisais déjà avec les enfants et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu parce que finalement, on fait des choses avec nos enfants dont on ne s'en rend même pas compte qui pourraient être bénéfiques plus tard. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur les astuces que vous m'aviez fait réaliser lors de l'enregistrement?
Ben, moi, je veux bien commencer, enfin, mais ça, c'est des trucs que j'ai vus aussi. C'est oui, déjà, quand on a un enfant. Et là, il n'y a pas de limite. Bon, 6 mois, il ne parle pas encore, mais c'est peut-être un peu tôt. Mais voilà, le plus tôt possible, dès qu'il commence à parler ou à pouvoir bouger et à comprendre un peu ce qui se passe, lui offrir une tirelire, tout simplement, et lui donner un petit peu d'argent de temps en temps, et lui faire comprendre que voilà, cet argent a une valeur. Et c'est aussi lui faire comprendre comment fonctionne la société capitaliste d'aujourd'hui. Peut-être qu'après, on va basculer dans le communisme, on va basculer dans autre chose. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de promouvoir le capitalisme à fond, voilà. Si on change de système, pourquoi pas revoir et s'adapter au nouveau système. Mais là, voilà, on est dans une société capitaliste et il faut savoir que en ce moment, le temps s'échange souvent contre de l'argent. Donc, lui faire comprendre que c'est quelque chose qui existe, ça ne veut pas dire qu'il va devoir subir ça toute sa vie, mais voilà. Donc, du coup, qu'il puisse apprendre à économiser un petit peu son argent le plus tôt possible. Si par exemple, il y a des services ou des actions qui sont obligatoires, qu'il doit faire payer ou pas payer.
métier, bon, ben, il va les faire. Mais pourquoi pas lui proposer des actions qui sont non obligatoires ou à la limite que tu aimerais bien qu'il fasse, mais voilà, ce n'est pas forcément à lui de le faire, de lui dire oui, si tu fais ça, je te donne 2 euros. Et une fois qu'il a ces 2 euros, tu as deux options. Soit tu vas chez le buraliste les dépenser, soit tu les mets dans ta tirelire. Mais si tu les mets dans ta tirelire et que tu as encore 2 euros, après, ça fera 4 euros. Et au bout de 10 euros, tu pourras peut-être acheter la figurine dont tu rêves. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu lui apprends très vite plusieurs choses. Premièrement, tu lui apprends à avoir une stratégie. Voilà, tirelire, il sait qu'il va peut-être devoir travailler, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir la mériter aussi. Mmh. Ça lui apprend aussi la frustration. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir sa figurine tout de suite, mais il va faire en sorte de faire des choses pour se mettre en action, pour avoir sa chose. En fait, il y a pas mal de choses en fait, que l'on associe à l'éducation financière, mais qui finalement, en fait, aident aussi à façonner les individus pour qu'ils s'intègrent dans la société. J'ai remarqué, par exemple, les individus qui n'avaient pas eu ce genre d'opportunité, ben, c'était souvent des individus qui étaient sujets aux actions compulsives, aux achats compulsifs, par exemple. Si tu n'as pas l'habitude de te frustrer, si tu n'as pas l'habitude d'avoir une stratégie, si tu n'as pas l'habitude de te restreindre, comment tu vas économiser 20 000 euros pour avoir un apport pour un appartement immobilier, par exemple? C'est compliqué. Alors que si c'est quelque chose que l'on t'a appris depuis tout petit, ça c'est peut-être pas forcément plus facile, mais c'est au moins quelque chose que tu reconnais à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que je suis très très sensible par rapport à l'éducation financière des enfants.
Bah, c'est très intéressant.
Et moi, de mon côté, oui. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un petit frère qui a 11 ans. Donc, le pauvre, c'est mon cobaye pour tout ce qui est éducation financière. Je l'utilise, mais je l'aime quand même. Et il y a une chose que j'ai remarqué qui marche très bien déjà. Lui, depuis tout petit, c'est lui qui paye à la caisse et qui compte la monnaie. Donc, déjà, il s'assure que la monnaie qui est rendue, c'est la bonne. C'est à la fois bon pour les maths et bon pour montrer qu'il peut manipuler l'argent et qu'on lui fait confiance. Ensuite, on a commencé à le laisser aller tout seul au magasin avec de l'argent liquide. Et jusque-là, ça allait. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait un vrai blocage avec l'argent. Le jour, je lui ai dit, voici ma carte de crédit. Tu payes avec, tu payes sans contact. Alors là, il était en crise. Ah, mais non, mais si je perds l'argent, etc. Et en fait, pour moi, c'est déjà un gros signal de il ne se fait pas confiance lui-même avec l'argent. Donc là, il y a quelque chose à creuser pour se dire comment est-ce qu'on peut inciter les enfants à avoir confiance avec l'argent. Donc, du coup, ce que j'ai fait en accord avec mes parents, bien évidemment, c'est que je lui ai ouvert un compte avec une carte bancaire. Donc là, il a sa propre carte et c'est lui qui choisit comment il dépense son argent. Et en fait, on serait étonné de voir à quel point les enfants sont raisonnables. Parce que lui, son compte, du coup, je lui ai ouvert quand il avait 10 ans, mais je n'ai jamais vu un enfant aussi raisonnable. Ah non, alors là, ça c'est 1,50€, ça coûte un petit peu trop cher, donc non, je ne vais pas l'acheter. Ah, ok, c'est bon, tu choisis, tu vois. Et c'est lui qui gère. Et il y a un dernier truc que je fais, donc c'est un peu en suspens à cause du Covid, mais comme là, on repart en vacances, c'est qu'en fait, on l'inclut globalement dans la préparation des vacances. Donc, il n'est pas juste là en touriste, mais il va choisir les hôtels avec nous. Donc, c'est quoi les hôtels, c'est quoi les prix, c'est quoi le budget, etc. Comment est-ce qu'on fait tout rentrer dans le budget? Et finalement, il se rend compte que l'argent, ça vient de quelque part, que l'argent a vocation à être utilisé. Il ne faut pas non plus trop fétichiser l'argent, je dirais, chez un enfant. Il faut montrer que, en fait, c'est littéralement, c'est un flux. T'as de l'argent qui rentre, t'as de l'argent qui sort, c'est normal. Ce qui compte, c'est comment tu le fais sortir et d'où il vient. Donc voilà.
Il y avait aussi l'astuce que j'avais bien aimé que tu m'avais donnée, Maëlisa, par rapport à ton petit frère, parce qu'on avait fait un épisode sur les cartes bleues. C'est les cartes prépayées ou les cartes électrons. Donc, il y a les cartes sur les livrets, tu lui mets une petite somme, tu lui dis que voilà, il a droit à telle somme et régulièrement, il peut suivre et dépenser et il peut dépenser ce qu'il y a sur cette carte et pas plus. Et j'ai vu beaucoup de mes clients le faire et je trouvais ça hyper intéressant en fait de les éduquer parce que maintenant, on est dans un monde où l'argent est immatériel et
tout à fait.
Donc, si on leur apprend à utiliser des cartes bleues très tôt, c'est pas plus mal. Ils seront pas dépaysés. Moi, par exemple, quand j'ai eu ma première carte, j'ai fait n'importe quoi. On me l'a bloqué tout le temps. C'était une catastrophe.
Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, bon, on a continué hein, parce que c'était pas du tout prévu qu'on parle des enfants. Mais c'est tellement, tellement important parce que moi, c'est vraiment en enregistrant que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais déjà à la maison, notamment la tirelire. Moi, je l'ai offerte assez tôt. Bon, elles en ont qu'une. Moi, j'ai deux filles. Elles en ont qu'une toutes les deux. Et c'est vraiment plus la grande qui gère. Et dans ma tête, en fait,
la grande de 6 ans était trop jeune pour parler éducation financière avec elle. Mais là, quand je vous écoute, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais que je pourrais approfondir. Par exemple, effectivement, le fait de préparer les vacances ensemble. Donc, je le fais, mais je n'inclus pas la partie, justement, budget. Moi, elle va plus être dans le choix de choisir l'hôtel, choisir où on va, comment on va y aller. Bon, on va pas la faire contribuer à la partie budget. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ce serait intéressant, notamment pour ma fille qui aime les hôtels de luxe, de lui dire, bah non, celui-là, c'est trop cher, etc. Non, mais vous me donnez plein de tips. J'espère que ça servira aussi aux parents qui nous écoutent parce que c'est très important, effectivement, de commencer à les éduquer tôt. Je me rends compte qu'on pourrait démarrer assez tôt, surtout qu'il y a plein de jeux finalement avec lesquels on peut jouer, ne serait-ce que pour les mathématiques, c'est super important. Donc franchement, merci mesdames, c'était un super épisode. Je vous remercie pour toutes les tips. Je pense qu'il faudra que je vous réinvite parce que j'ai encore beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, ma mère, merci beaucoup de nous avoir invitées.
Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir de parler d'éducation financière.
Tout à fait.
On ne s'arrête jamais.
On ne s'arrête jamais. Je pense qu'il y a d'autres choses à creuser et qu'on le fera ensemble sur des palabres et des actes. Mais en tout cas, je répète qu'il faut vraiment aller voir leur newsletter, leur compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, c'est femmes.riches au pluriel. Et pour la newsletter, c'est femmes.riches au pluriel aussi sur leur site internet, donc n'hésitez pas. Et pour tout ce qui est investissement immobilier au Sénégal, vous pensez Batiboum évidemment et vous nous contactez. Merci beaucoup. À très vite les filles.
À bientôt.
À bientôt.